Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, depuis un an, un nouveau binôme franco-allemand est aux affaires et le changement est d'importance. La relation politique en a-t-elle d'ores et déjà été modifiée ?
Alors la question mérite d'être posée car, en effet, en décembre 2021, pour le binôme franco-allemand, il se produit un bouleversement et même, pour certains analystes, il est vrai en mal de sensation, un saut dans l'inconnu. C'est le départ et la retraite politique d'Angela Merkel, l'inamovible chancelière allemande, doyenne des dirigeants politiques occidentaux. Angela Merkel, c'est Mutti pour les Allemands. 16 années de chancellerie, à 10 jours près la longévité de son père en politique, Helmut Kohl. Ce sont 3 réélections et la direction de 4 gouvernements de coalition successifs. Mais en butte à des critiques jusque dans son camp, notamment pour son soi-disant laxisme en matière migratoire. Et on se souvient, Yann, de l'ouverture à l'été 2015 pendant un mois de la frontière allemande aux réfugiés syriens. Malgré une réélection en 2018 et une gestion de la crise sanitaire appréciée des Allemands, l'effritement de son autorité politique convainc la chancelière de passer la main au lendemain des élections législatives de septembre 2021. Devancé par le candidat social-démocrate, son successeur désigné, Armin Laschet, et son parti, la CDU, abandonnent le pouvoir à une coalition feu tricolore, c'est comme ça qu'on la nomme, SPD, socialiste donc, Vert et FDP, les libéraux. Le 8 décembre 2021, le nouveau gouvernement entre en fonction. 2 jours plus tard, le nouveau chancelier, Olaf Scholz, pour son premier déplacement officiel à l'étranger, est reçu à Paris par le président Emmanuel Macron.
Et alors, que sait-on en France du successeur de Merkel à son arrivée au pouvoir ?
Olaf Scholz est peu connu en France, malgré une carrière politique déjà très remplie. Né en Basse-Saxe en 1958, Scholz est un homme du nord de l'Allemagne, et plus précisément de Hambourg, où sa famille s'installe alors qu'il est encore un enfant. C'est dans cette ville-état qu'il effectue toute sa scolarité jusqu'à l'université de droit pour devenir avocat. À 17 ans, il s'inscrit au Parti social-démocrate, accède à des responsabilités au sein des JUSO, les jeunes socialistes, et se montre alors très critique de la politique réformiste du chancelier SPD, Helmut Schmidt. À la fin des années 90, il est responsable SPD local et bientôt national en 2002 en tant que secrétaire général du parti. Dans le même temps, il est élu député fédéral dans une circonscription de Hambourg. Au fil des années, il adopte une ligne modérée, soutient les réformes engagées par Gerhard Schröder et notamment la fameuse réforme du marché du travail. Réélu au Bundestag en 2005, il entre dans le gouvernement de coalition SPD-CDU au poste de ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales. 2 ans plus tard, avec la fin de la coalition, il anime l'opposition parlementaire à la chancelière. À partir de 2011, il se replie sur Hambourg, dont il devient le chef de gouvernement dans cette ville-État. Il gagne les élections régionales en 2015, avant d'intégrer en 2018, dans le cadre de la grande coalition CDU-SPD, le 4e gouvernement Merkel, en tant que vice-chancelier et ministre fédéral des Finances. En août 2020, il est désigné candidat du SPD à la chancellerie, avec le résultat que l'on connaît.
Alors Angela Merkel était réputée pour son calme, sa retenue et son ton apaisant. Le profil d'Olaf Scholz est-il différent ?
Alors Olaf Scholz présente plusieurs traits de la chancelière. Peu de charisme, beaucoup de sobriété de style et de mots, un ton monocorde, une communication minimale. « Je me présente pour être chancelier, pas pour être directeur de cirque », déclare-t-il. Bref, comme l'a titré le journal Le Spiegel, l'ennui même en politique. Mais aussi une approche des dossiers rigoureuse, réfléchie, pragmatique, compétente. Et selon Bruno Le Maire, son collègue français aux finances, un homme, je vous les guillemets, très déterminé, très méthodique et qui ne se laisse pas impressionner par les événements. En somme, pour les Allemands, un chancelier taiseux, mais comme Merkel, rassurant, car tout à fait adapté au parlementarisme allemand. Sur la scène internationale, un chancelier peu adepte des coups improvisés.
Alors, quelles relations se sont établies avec la France et son président ?
Alors, au fil des réunions qui ont scandé une année 2022 très chahutée par la crise ukrainienne et ses effets énergétiques et inflationnistes, les deux responsables ont appris à se connaître. Si fin août, la France a apprécié l'adhésion du chancelier à la vision macronienne d'une Europe souveraine et son appui à l'idée toujours macronienne de communauté politique européenne, de profondes divergences affectent depuis la relation entre les deux pays, au point de provoquer fin octobre, quelques jours avant sa tenue, le report à l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours, du Conseil des ministres franco-allemands. En cause, plusieurs dossiers, parmi lesquels, en matière de défense, l'Allemagne ayant décidé un plan de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée, Paris espérait une avancée dans la réalisation d'une défense franco-allemande sur les programmes engagés du char et de l'avion de combat du futur, notamment. L'annonce de la construction d'un bouclier antimissile européen associant 14 pays de l'OTAN sans la France a constitué une douche froide à Paris. Deuxième dossier, l'énergie. Outre le désaccord sur le nucléaire, les deux pays s'opposent sur le projet de gazoduc reliant l'Espagne à la France via les Pyrénées, appuyé par l'Allemagne mais refusé par la France. S'opposent aussi sur le plafonnement du prix du gaz souhaité par la France et dont l'Allemagne ne veut pas, même si les positions semblent avoir un peu évolué. Ajoutons l'agacement français face aux initiatives allemandes peu, entre guillemets, européennes, le voyage du chancelier en Chine ou le bouclier tarifaire énergétique de 200 milliards annoncé sans concertation. À l'évidence, la déstabilisation produite par la guerre en Ukraine pèse sur la relation franco-allemande, mais sans doute, du moins faut-il espérer, pas au point de provoquer la panne du moteur européen.